Voisine. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI du lundi au vendredi. Et bien sûr, comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation avec vous, les voisins et les voisines. Aujourd'hui, comment aider son enfant à faire ses devoirs lorsque l'on n'est pas justement un professionnel de l'enseignement, mais un simple parent? Comment éviter les énervements et puis en faire un moment de plaisir, de complicité? Quelles méthodes conviennent à votre enfant pour apprendre ses leçons? Quelles mauvaises habitudes éviter? Et puis pour les parents qui ont peu fréquenté l'école, nous verrons qu'ils ont toute leur place pour encourager leur enfant et qu'ils ne doivent surtout pas démissionner. Alors bien sûr, nous attendons vos témoignages et vos questions pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71, nos invités qui sont tous deux spécialistes de ce qu'on appellerait la pédagogie positive ou la psychologie positive. Charles Caplette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant en lycée professionnel, père de
oui.
trois enfants, ça peut servir.
Oui.
Et vous publiez « Chouette, c'est l'heure des devoirs ». Sauf que quand même la réalité, c'est pas chouette du tout pour tout le monde, hein, les devoirs, on va dire.
Alors effectivement, oui, c'est le pari du livre, c'est de prononcer ce mot chouette.
Un guide optimiste en tout cas, et sérieux. Agnès Dutheil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une ancienne infirmière scolaire, vous en connaissez un petit rayon sur les angoisses des élèves. Vous publiez la psychologie positive pour que vos enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et puis nous serons également en ligne tout à l'heure avec Annie Colli, qui est une ex-professeure de français. C'est aujourd'hui proviseur d'un grand lycée à Dakar et elle nous dira pourquoi les parents doivent continuer à suivre de près ou de loin les devoirs, y compris des lycéens. Je vous rappelle le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71. Quelques messages postés sur le fil Facebook. Je vais en lire beaucoup pendant toute l'émission parce qu'il y a beaucoup de questions, vous vous en doutez. Alassane à Bamako résume assez bien le problème, je trouve. En tant que parents, nous sommes obligés de donner un coup de main à nos enfants pour faciliter leur apprentissage. Cela va nous prendre beaucoup de temps et d'émotion. Il faut savoir que c'est difficile, surtout après une journée dure de travail. Mmh. Bon, c'est vrai, c'est assez honnête
oui,
quand
oui,
même. Hein.
Bon.
Kilangiste, qui est à N'Djamena, au Tchad. Je vous écoute, j'attends des conseils pour que mon enfant fasse ses devoirs, qu'il aime les faire et qu'il aime aller à l'école. Vous avez une petite pression là, hein, les auditeurs. Appelez-nous pour nous raconter, les voisins qui nous écoutaient, les problèmes concrets que vous rencontrez au quotidien avec des questions précises quand viennent le temps des leçons et des devoirs. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Charles Caplette, votre guide et vos conseils concernent des enfants de 5 à 12 ans, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'à l'adolescence, si... encore un autre problème. Hein.
Oui, même s'il y a certains exercices que j'ai réalisés avec mon grand garçon, notamment quand il était en première.
Beaucoup oui, donc... de parents, Agnès Dutheil, disent « Mais comment ça, à son âge, je me débrouillais seule
?» Est-ce qu'elle se débrouillait seule? Quand vous me posez la question comme ça, je veux dire...
Les parents sont malhonnêtes, ils ont oublié.
Je ne sais pas, et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui se débrouillent seuls pour les devoirs aussi, je ne sais pas. Oui.
En tout cas, c'est vrai qu'on est en France et puis en Afrique francophone, des pays où on donne des devoirs, où on donne des leçons d'ailleurs, malgré parfois les textes réglementaires. Vous êtes d'accord avec
oui,
ça, Charles
oui,
Caplette
bah, en fait, les devoirs sont interdits, mais la réalité fait qu'il y en a malgré tout. Et même quand les instituteurs n'en donnent pas, quelquefois les parents aiment surveiller le travail de leurs enfants et jeter un coup d'œil sur les apprentissages.
Vous voulez dire que ça rassure les parents aussi, des enseignants qui donnent des devoirs et des leçons, sinon ils se disent que...
Ce que j'imagine, c'est que la difficulté dans des devoirs, elle vient surtout de l'angoisse des parents et de l'angoisse et de la pression que les parents ont et du vouloir qu'ils ont à ce que leurs enfants réussissent et de la difficulté à accepter l'erreur de leurs enfants.
Mais il y a aussi une pression des enseignants hein, quand
absolument
les enseignants
de la
les
société
parents.
C'est un contexte évidemment
on culpabilise quand même assez rapidement les parents hein. Est-ce que vous êtes sûr qu'il fait bien ses devoirs à la maison etc quand les notes ne sont pas au rendez-vous hein. Je vous lis le message de Grace, qui est Anne Gaoundéré au Cameroun. Je trouve qu'elle pose un problème aussi très répandu. Je suis très nerveuse quand j'aide mon enfant à faire ses devoirs. J'ai tendance à vite m'énerver, surtout après ma journée de travail. Avez-vous des astuces pour que ce moment se passe mieux et que je sois plus détendue? la question de la nervosité.
Oui, ça, si vous le permettez. Je pense qu'un des problèmes liés à ce moment des devoirs, c'est qu'après effectivement une journée de travail, on entre dans ce moment comme ça, on brute de décoffrage et on ne prend pas de temps pour se reconnecter à soi-même et se poser soi-même. Je parle en tant que parent. Il m'est arrivé de rentrer chez moi et je ne m'étais pas débarrassé encore de ma veste et de dire à mes enfants bon allez, on s'y met tout de suite. Et en fait, j'étais moi-même dans un état de stress, de pré-énervement où j'avais encore tous les stress de la journée et les émotions négatives que j'avais emmagasinées. Et de fait, ça a amené au clash. Donc je pense qu'il y a une proposition qui est celle de se reconnecter à soi-même, c'est-à-dire de veiller à ce petit moment de liaison entre ma journée et puis ce moment que je vais passer avec mon enfant.
C'est ça. Pour le parent lui-même.
Pour le parent lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la première.
Ça peut durer combien de temps ce moment? Non, parce qu'on se met à la place du parent, il est rentré plus tard que prévu, déjà il est en retard.
Ça peut durer 5 minutes. C'est-à-dire qu'on peut se poser 5 minutes, prendre le temps d'une respiration profonde, prendre le temps de boire un thé, prendre le temps de se demander.
Oui, c'est pas 5 minutes en consultant ses mails et ses SMS.
Non,
on
non,
est
non,
bien d'accord.
C'est 5 minutes pour se reconnecter à soi. Et puis 5 minutes aussi pour fermer ses programmes. Parce que dans la journée, on ouvre une multitude de programmes. Et là, il s'agit aussi de les fermer.
C'est-à-dire
Quand je parle de programme, c'est un peu comme un ordinateur. C'est-à-dire qu'on commence notre journée, puis on ouvre des dossiers sans arrêt. Et quand on rentre chez nous, on a dans notre tête 10, 15 dossiers ouverts, exactement comme notre ordinateur. Donc il faut prendre le temps. Enfin, j'aime pas le mot il faut, mais je vous conseille.
Faire le vide dans sa tête.
Faire
en
le
tant
vide,
que
fermer
parent.
Tous ces dossiers, se poser de quoi j'ai besoin. J'ai peut-être besoin d'aller prendre un bain, j'ai peut-être besoin de me poser, peut-être que j'ai besoin d'une soirée tranquille, donc je vais pas les faire ce soir, les devoirs. Mais se reconnecter à soi. Donc je pense que ça, c'est une étape intéressante. C'est soigner ce moment de liaison entre sa journée de travail et le moment des devoirs. Et la deuxième chose, c'est être conscient qu'on amène, nous, en tant que parents, plein de choses dans ce moment des devoirs qui sont liées à notre enfance, à notre histoire familiale et qui ont peut-être pas lieu d'être là.
Oui, et alors ça a l'air simple, mais d'où l'intérêt de la psychologie positive dans ces cas-là. Mais comment se débarrasser, parce que c'est toute la différence avec la situation de l'enseignant qui n'a pas de charge émotionnelle avec les enfants, en principe, lorsqu'il enseigne.
Oui, ce que je rajouterais en fait à ce que disait Charles, c'est qu'effectivement c'est important de prendre un temps pour soi, et puis après c'est important de prendre un temps avec l'enfant. C'est-à-dire que finalement, moi ce que je dis aux parents, c'est la connexion d'abord, connectez-vous d'abord avec votre enfant. Finalement, avant de lui poser des questions, c'est d'abord bonjour, et puis c'est je suis contente de te voir, enfin voilà, c'est cette question, c'est cette connexion-là qui est d'abord importante.
Ça veut pas forcément dire faire la pause jeu à la sortie de l'école avec son enfant. L'enfant, il a peut-être pas forcément envie d'être tout le temps avec ses parents. Il peut avoir envie d'être tout seul, de faire une pause en sortant de l'école avant de commencer les devoirs avec les parents.
Absolument. Mais donc, en même temps,
la reconnexion, elle peut prendre combien de temps alors avec son enfant?
C'est déjà, en fait, je me dis de se mettre à la hauteur de l'enfant quand l'enfant il est petit. Enfin, je me dis, en fait, je l'ai fait moi-même en tant que maman. Je vois bien comment en fait on fait en tant que parent. On rencontre aussi les autres parents à la sortie de l'école et on parle aux autres parents, on parle à l'instituteur. Et finalement, est-ce qu'on prend le temps de s'accroupir devant l'enfant pour lui dire bonjour, je suis contente de te revoir, comment ça s'est passé ta journée? Voilà, enfin, juste de prendre ce temps-là avec l'enfant.
Antoine à Bamako nous dit, si tu es impliqué, donc, en tant que parent, il le sera aussi. Mais n'oubliez pas de laisser vos enfants se reposer. Vous avez le sentiment que les enfants ne se reposent pas assez en sortant de l'école ou pas?
J'ai entendu l'autre jour un prof de maths me raconter une histoire vraiment incroyable. On travaillait sur la confiance en soi de l'enfant. Et elle me disait, écoute, tu sais, l'enfant qui a le plus confiance en lui dans ma classe, c'est un enfant qui est handicapé. Et en même temps, c'est le seul enfant qui me dit, tu sais, ma maman, le soir, avant de faire mes devoirs, elle me dit, non, pas encore maintenant, t'as pas encore assez joué. Alors que les autres parents disent, tu fais d'abord tes devoirs avant de jouer, c'est le seul enfant pour qui la maman dit, non, t'as pas encore assez joué.
Ouais. Et alors, quel serait le temps idéal de jeu, de détente pour l'enfant lorsqu'il sort d'une journée de cours à l'école primaire, par exemple, pour vous, Charles?
Le temps idéal, je ne sais pas s'il y en a un, parce que ça dépend des individus, ça dépend des contextes familiaux. Je dirais que les parents ont beaucoup d'intuition, on a beaucoup d'intuition par rapport à nos enfants, et si, pour peu qu'on soit aussi un peu connecté à soi-même, on peut percevoir ce genre de messages que nous envoie notre enfant. Effectivement, le conseil de se mettre à son niveau et de lui demander s'il a passé une bonne journée, s'il va bien et comment ça s'est passé, c'est effectivement une bonne entrée en matière. Après, je dirais que le temps des devoirs peut aussi devenir le temps du jeu. Donc, je veux dire, cette question, combien de temps on a besoin?
Et des câlins.
Tout à fait.
On a énormément de questions d'auditeurs qui arrivent sur les réseaux sociaux, qui arrivent à notre standard 33 1 84 22 71 71. Nous vous donnons la parole très très vite.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Ça va, ma
33 1 84 22 71 71. Nous parlons des devoirs et surtout comment aider ses enfants à faire leurs devoirs lorsque l'on n'est pas un enseignant professionnel. Nous sommes en ligne avec Amadou qui nous appelle de Bambé, à l'est de Dakar. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous, vous êtes justement un enseignant professionnel, il me semble.
Oui.
Alors vous appelez en tant que parent ou en tant que prof ?
Ben, j'appelle en tant que professeur.
Dites-nous.
Oui, voilà, merci. Je suis professeur d'informatique à l'école Sainte-Croix de Bambé. Mm-hmm. Alors là, moi j'ai constaté qu'au Sénégal, le mode de correction des enseignants est un peu basique. Alors parce que ils émettent leur barème, ensuite ils corrigent directement. En fait, moi j'ai adopté une autre méthode un peu différente. Parce que moi, c'est vrai que j'adopte mes barèmes, mais pour chaque question, je mets le commentaire afin que si l'enfant amène la copie au niveau de ses parents, pour que les parents puissent comprendre les lacunes sur lesquelles l'enfant a des problèmes.
Ah oui, d'accord. Donc en fait là, vous intervenez pour justement parler de la notation et que cette notation puisse aussi servir de base pour retravailler à la maison lorsque l'on est parent, faire retravailler ses enfants. C'est bien ça ?
Absolument, absolument. Parce que les parents, d'habitude, ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas là où leurs enfants ont des lacunes.
Oui.
Et ce sont aux enseignants de mettre des commentaires sur les réponses.
Oui,
voilà,
bien exactement. Sûr. Amadou, restez en ligne avec nous. Hein. Agnès Dutheil veut intervenir.
Bonjour Amadou.
Bonjour madame.
Bonjour. J'ai envie de vous proposer quelque chose, Amadou. Je me dis finalement ce qui se passe au niveau du cerveau de l'enfant aussi quand on souligne en fait les erreurs que l'enfant a fait, c'est qu'en fait finalement on met toute son attention au niveau de l'erreur. Est-ce que ce serait pas aussi intéressant de souligner peut-être avec une autre couleur, peut-être en vert par exemple? Tout ce qui est juste pour l'enfant, c'est tout ce que l'enfant a fait juste. C'est-à-dire que même pour les parents qui ne savent pas finalement la bonne réponse, eh bien vous la soulignez. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà ce qui est juste, voilà ce qui est bon, voilà en fin de compte une lettre qui est bien faite, voilà quelque chose qui est bien fait. C'est comme ça qu'il faudrait que ce soit toujours. Mmh. Et finalement, le modèle,
il
existe.
Qu'une copie ne soit pas que rouge, mais qu'il y ait du rouge et du vert.
Et
c'est
oui,
ça, finalement.
Avec tout ce qu'il a réussi, et que finalement, il peut prendre modèle lui-même sur ce qu'il a réussi, et les parents, ils peuvent voir qu'est-ce qui a été réussi.
Ça a l'air d'être un détail, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, non, dans la tête de l'enfant.
Ben oui, parce que les enfants, ils ont envie de nous faire plaisir. Les enfants, ils ont envie de bien faire. Et quand on leur dit ça, c'est pas bien, ça ne leur dit pas comment c'est bien, comment on fait bien. Mais par contre, quand on leur dit ça, c'est chouette, et regarde, et pas simplement leur dire c'est chouette, ça ne suffit pas, mais de leur dire, regarde, quand tu as fait ça, ça c'était réussi, tu as réussi ça, c'est super.
Amadou ?
Oui. Alors, mais ce qu'a dit madame, c'est extraordinaire. D'ailleurs, même, je vais l'intégrer dans ma grille de correction.
Voilà, exactement. Révolution dans la classe d'Amadou.
Oui, je suis là même actuellement dans ma classe. Mais ce qu'il a dit, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je vais utiliser maintenant des Big Verts.
Oui, d'accord. Vous êtes là dans votre classe avec vos élèves, là, Amadou ?
Oui, bon, mais actuellement, ils sont sortis parce qu'ils sont allés faire cours d'éducation physique.
D'accord. Bon, bah, très bien. Vous allez les récupérer, ils se seront bien défoulés. Formidable. Très, très bonne journée. Très bonne journée, Amadou. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à Pierre qui nous appelle d'Afrique du Sud, de Pretoria. Bonjour, Pierre.
Bonjour, Emmanuel. Oui, bonjour à tous les voisins et voisines de la Radio Mondiale.
Bon, vous êtes un Congolais résident en Afrique du Sud et vous souhaitez alors apporter peut-être des conseils que vous pratiquez vous-même en tant que parent?
Oui, je voudrais partager de mon expérience par rapport au sujet du jour, parce qu'avec mes neveux, c'est devenu vraiment une habitude de tous les jours.
Oui. Vous faites donc travailler vous faites travailler vos neveux le soir, hein, c'est bien cela, à la place de leurs parents.
Généralement, je leur fais travailler à partir de 15h30.
Oui.
D'abord, chaque jour, on fait juste une évaluation de la journée scolaire. Je vérifie ce qu'ils ont bien fait à l'école. Je les encourage parce que je suis pédagogue de formation.
Oui.
Je fonde mon principe selon lequel il faut toujours encourager les timides. Et là où ils n'ont pas bien fait, alors j'essaie d'organiser une petite leçon à la maison avec mes neveux.
Oui.
Alors, la plus grande difficulté que j'ai, parce que généralement avec les devoirs, ça se passe bien, d'abord je leur demande, ils me montrent ce qu'ils ont compris par rapport aux devoirs,
mm-hmm.
et puis je vois où se trouvent leurs difficultés,
mm-hmm.
je les aide à surmonter la difficulté.
Oui, mais alors, vous disiez le plus grand problème que vous avez, quel est-il alors?
Voilà, le plus grand problème, c'est quand je suis en face d'une question ou d'une matière que je ne possède pas les livres.
Parce, que, vous savez, parce que vos neveux sont à quel niveau là? Ils sont dans le secondaire, à la fin de l'école primaire?
Oui, j'ai deux neveux au secondaire et j'ai deux autres à l'école primaire.
D'accord, donc évidemment pour ceux qui sont au secondaire, ça commence à devenir difficile si vous-même vous n'avez pas une formation dans les matières qu'ils doivent travailler. C'est bien ça le problème?
Oui, c'est ça le grand problème. Et ensuite, vous connaissez ce que la République démocratique du Congo a connu au temps des guerres, les manuels scolaires ne sont toujours pas accessibles.
Ouais, donc vous avez le sentiment d'avoir des lacunes, mais il ne faut pas culpabiliser pour autant, hein, Pierre. Charles Caplette, qu'est-ce qu'on peut conseiller?
Oui, bonjour
à Pierre.
Bonjour. Ils ont de la chance, ces enfants, d'avoir un tonton qui les aide pour leurs devoirs.
Et ça, c'est la solidarité de la famille africaine.
Alors, par rapport à votre question et par rapport à ce problème, je pense que, d'abord, oui, effectivement, il faut vous déculpabiliser parce qu'on est tous dans ce cas-là, enfin, y compris les parents. On maîtrise pas forcément l'ensemble des programmes que nos enfants sont en train de découvrir à l'école. Et je crois qu'il y a une façon de faire qui peut être intéressante, c'est que, ça va être à vos neveux de vous apprendre le domaine qu'ils sont en train de découvrir. C'est-à-dire que vous pouvez leur proposer eux de devenir le prof, l'instit, et c'est vous qui allez devenir l'élève. Ça va aussi vous permettre de voir comment ça se passe avec eux dans l'autre sens, si je peux dire.
Qu'est-ce que ça permet, ça, pour l'enfant, de fixer les connaissances?
Alors, ça permet à l'enfant, en fait, de fixer les connaissances, de réintégrer son propre processus d'apprentissage et de trouver les mots justes pour expliquer à l'autre. Et en fait, le fait de rentrer dans cette démarche de pédagogie pour l'enfant, ça va lui permettre de mémoriser et de créer un sentier, je dirais, dans son cerveau vers l'apprentissage de cette matière-là. Donc, en fait, grâce à vos neveux, c'est vous, cette fois, qui allez apprendre des choses.
Merci beaucoup Pierre de nous avoir appelé. Vous continuez de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Je vous lis le message de Landing qui est à Dakar et qui dit: lorsqu'on aide ses enfants à faire leurs devoirs, il faut d'abord lire la consigne pour comprendre les notions dont on va avoir besoin. Moi, je demande toujours à mon enfant d'essayer de faire l'exercice seul dans un premier temps, puis de me demander de l'aide s'il est bloqué. Il faut toujours laisser l'enfant essayer seul avant de lui proposer de l'aide. Qu'en pensez-vous, Agnès Dutel?
Moi, je trouve que c'est très juste. Bravo, parce que c'est vraiment très juste. C'est-à-dire de laisser en fait l'autonomie à l'enfant et en même temps de lui faire comprendre et de lui dire qu'on est disponible, qu'en fait il peut compter sur nous. Moi, je trouve que c'est vraiment notre rôle en tant que parents d'accompagner nos enfants, mais pas de faire à leur place, exactement comme quand ils ont appris à marcher. En fait, on a simplement mis nos mains en dessous de leurs mains, on les a pas tirées, on les a pas poussées, on les a simplement accompagnés. Et je me dis, pour les devoirs, c'est la même chose,
oui, juste d'être là. Oui, alors les tirer, les pousser, parfois c'est quand même très difficile d'installer l'enfant à sa table, de faire ses devoirs. Vous dites, Charles Caplette, il y a plein de rituels à mettre en place, pour certains très ludiques quand même, hein, quand vous dites qu'il faut ramper jusqu'à la table des devoirs en imitant un animal, par exemple.
Ça, c'est très sympathique à faire, et en fait ça remet à sa place le corps dans l'apprentissage. Parce que,
alors on fait le crocodile, on fait l'éléphant.
On peut faire le crocodile, on peut faire le phoque, on peut faire l'éléphant, on peut être balourd, on peut faire le tigre.
Sérieusement, ça permet quoi ça?
Alors ça permet de, déjà physiquement de s'approcher de la table des devoirs, ce qui est parfois difficile quand l'enfant était avec son jeu au fond du canapé et qu'il n'a pas envie de bouger. Ça permet de respirer d'une façon différente, ça permet de se mettre en mouvement physiquement, ça permet de rire parce que ça devient très drôle. Et donc il y a ce petit sas de nouveau pour arriver au moment des devoirs et cette liaison.
Vous restez tous les deux avec nous, Agnès Dutheil et Charles Caplette, pour dialoguer avec nos auditeurs. Questions, conseils, comment aider ses enfants à faire ses devoirs? Et bien sûr, vous nous appelez pendant le flash au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes sur RFI, bien sûr, 7 milliards de voisins. Voisine, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins, on parle éducation comme chaque vendredi et aujourd'hui, aider ses enfants à faire ses devoirs lorsque l'on n'est pas justement un professionnel de l'enseignement. On en discute avec nos invités, Agnès Dutheil et Charles Caplette, vous êtes auteurs de guides sur le thème de la pédagogie ou de la psychologie positive, exactement ce qu'il faut aux parents pour que le temps des devoirs et des leçons cesse d'être un moment d'énervement, de tension, de nervosité, comme le disait une de nos auditrices grâce au Cameroun. Nous sommes vendredi, en tout cas nous on en discute aujourd'hui en toute sérénité avec vos appels, les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71 et vous foncez en même temps sur notre page Facebook pour gagner ces livres de conseils qui sont extrêmement bien faits. Je vous lis le message de Tom qui a 27 ans, qui est à N'Djamena, il nous dit « J'ai une fille de 7 ans qui ne veut pas faire ses devoirs. Comment aider un enfant capricieux et déterminé à ne pas travailler? Y a-t-il une méthode à suivre pour les parents qui souhaitent être là dans ces moments ?» Agnès Dutheil, déjà, comment vous lisez ce témoignage? Un enfant déterminé à ne pas travailler.
Ben, je ne sais pas ce qu'elle veut dire à son papa, cette petite fille, mais elle a certainement quelque chose à dire. Moi, ma lecture à moi, c'est de regarder en fait les conflits qui s'instaurent avec les enfants comme quelque chose que les enfants ont envie de nous dire, mais que nous, et qu'ils ne savent pas exprimer qu'autrement que comme ça. Et c'est la difficulté en fait en tant que parent. Ouais. C'est d'arriver à déplier ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette petite fille? Parce que j'imagine qu'en même temps, elle adore son papa et qu'elle adorerait lui faire plaisir. Et que quand elle dit ça, il y a autre chose derrière.
Oui, mais alors vous les psychologues, c'est vrai que vous dites souvent il n'y a pas d'enfants paresseux, il n'y a que des enfants démotivés ou qui n'ont pas confiance en eux-mêmes, mais reconnaissez tout de même qu'il y a des enfants qui ont plus d'appétit pour l'apprentissage, les apprentissages scolaires que d'autres.
Oui, hein. Et en même temps, ce que j'imagine, c'est qu'en fait, il y a des enfants qui ont plus d'appétit pour certains apprentissages et pas d'autres. Et j'imagine que cette petite fille, elle a des choses qu'elle aime. Et qu'est-ce qu'elle aime aussi?
Oui, alors peut-être commencer par lui poser cette question-là.
Peut-être, oui.
C'est bien ça. Voilà. Charles Caplette.
Alors d'abord, c'est une petite fille qui a du caractère, donc c'est plutôt bien. Elle s'exprime.
Pour qu'on dise d'elle qu'elle est déterminée,
oui,
c'est ça.
Exactement, donc c'est positif. Donc commençons par voir les choses positivement. Et ensuite, il existe d'autres façons d'apprendre. En fait, ces enfants qui ne veulent pas faire leurs devoirs, souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas été sollicités par rapport à leurs intelligences, par rapport aux intelligences qui leur sont propres. Il existe une théorie qui est les intelligences multiples. Et en fait, on peut apprendre.
Howard Gardner,
voilà.
Ouais,
et on peut apprendre de différentes façons. Et donc il y a des enfants qui toute la journée déjà ont appris avec des méthodes et des intelligences qui sont sollicitées par l'école traditionnellement et qui n'ont plus envie le soir.
Avec la même méthode pour tout le monde.
Avec la même méthode pour tout le monde.
Donc ça veut dire qu'il faut penser à différencier.
On peut essayer de faire autrement. Voilà.
Et comment? Alors donnez-nous un exemple.
Eh bien par exemple il y a des enfants qui sont des enfants kinesthésiques qui vont apprendre en touchant des choses. Donc on peut travailler avec des Legos, on peut travailler avec des cartes mentales, on peut découper, on peut dessiner. Ça c'est plutôt pour les enfants visuels.
Mais comment un parent peut-il le savoir qu'il a un enfant plus visuel, plus tactile, plus auditif?
Ça, on peut le percevoir parce qu'un enfant qui aime bien les câlins, par exemple, ça va être un enfant plutôt kinesthésique, un enfant qui parle beaucoup, il est plutôt dans le discours, un enfant qui aime les images. Je pense qu'en tant que parent, on peut percevoir.
Par exemple, un enfant qui est très bon pour faire des puzzles, ça va guider le parent. Tiens, il est très très fort pour faire des puzzles,
oui.
pour trouver une méthode pour les devoirs.
C'est-à-dire qu'on peut prendre la leçon, on peut la découper, en faire un puzzle, et puis un puzzle à reconstituer. Et par cet exercice-là qui va devenir ludique, il y a une mémorisation qui va se mettre en place.
Et quand vous dites découper la leçon, ça veut dire quoi?
Ça veut
concrètement
dire que...
avec une paire de ciseaux ou comment?
Oui, très concrètement. On peut tout à fait prendre la leçon, enfin en faire une photocopie, découper les mots importants, le présenter autrement, reconstituer un puzzle, enlever des mots dans des phrases et demander à replacer les mots dans la phrase, mais physiquement avec des petits morceaux de carton. Donc il y a énormément d'outils qui existent pour travailler autrement.
Commencez par les devoirs les plus simples que l'enfant préfère, c'est une bonne méthode ou pas?
Oui, et en même temps, quand je me dis, en fait, quand je vous entends, en fait, Charles, je me dis, en fait, ce qui est compliqué pour les parents, c'est qu'ils ne sont pas tous pédagogues.
Oui, bien sûr.
Et comment est-ce qu'on fait quand, en fin de compte, d'abord, on n'a pas le temps, qu'on rentre, effectivement, c'est ce que disaient certains parents, on rentre du travail, on n'a pas le temps. Et qu'en fait, finalement, les enfants, je sais pas, cette petite fille tout à l'heure dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle exprime aussi peut-être le fait qu'elle a juste envie de prendre le temps avec son papa et de jouer avec son papa? Parce qu'il y a des enfants, c'est simplement ça dont ils ont besoin.
besoin de juste de temps alors que les parents n'en ont pas. Et puis peut-être
que les parents se disent j'ai déjà tellement peu de temps, si en plus je perds du temps à jouer avec mon enfant et qu'on ne fait pas les devoirs, ça sera pire.
Ça sera pire.
Vous pensez que c'est au contraire un mauvais calcul et qu'il faudrait prendre du temps pour jouer, quitte à avoir moins de temps pour faire les devoirs?
Je me dirais qu'en fait oui, et en même temps quand on parle comme ça, les parents ils me disent mais tu parles comme dans un livre, et c'est vrai parce qu'en même temps dans la journée, le soir quand on rentre et qu'il faut s'occuper de tout ça, des devoirs, des repas, de ranger le linge, de faire tout ce qu'on a à faire, eh bien on n'a pas le temps de faire tout ça et les parents ils culpabilisent et ça se termine en fait en les Québécois ils ont une très belle expression, ils disent une crise de bacon parce qu'en fait voilà, je veux dire on fait un petit tour en fait du côté de la neige parce que vous savez le bacon quand on le cuit, on le retourne d'un côté de l'autre et c'est comme si les enfants ils nous faisaient faire ça, ils nous retournent et nous en fait on n'en peut plus et je me dis finalement est-ce que quelquefois la meilleure pédagogie c'est pas de pouvoir demander à quelqu'un d'aider nos enfants à faire leurs devoirs et pas forcément de le faire nous-mêmes.
Nous sommes en ligne avec une enseignante professionnelle qui a une longue carrière derrière elle à Dakar. Bonjour Annie Colissan.
Bonjour, c'est
Annie Colissan. Oui, Annie Colissan, oui. Bien sûr. Vous êtes une ex-professeure de français, vous êtes aujourd'hui proviseur au lycée Tierno Saïdou Nouroutal à Dakar.
Parfaitement.
Est-ce que vous pensez qu'il faut surveiller les enfants jusqu'aux années lycée, surveiller les devoirs, vérifier que les devoirs et que les leçons sont apprises?
Les parents doivent savoir que leur présence doit être de qualité. Ils n'ont pas besoin d'être des spécialistes pour accompagner leurs enfants, pour leur donner l'habitude de s'organiser, d'organiser un temps de détente à leur retour de l'école et un temps de travail. Il faut qu'on respecte le rythme scolaire de l'enfant. Et dans ce respect du rythme scolaire, il faudrait que les parents se mettent en tête que s'ils n'ont pas un œil vigilant sur les études, les devoirs de leurs enfants, les enfants seront laissés à eux-mêmes et la déperdition peut passer par ce temps de paresse qu'on leur laisse.
Mais ça veut dire très concrètement, les parents ne sont pas en mesure de vérifier le devoir maison de mathématiques en classe de seconde, ils ne sont pas en mesure de les aider forcément, mais au moins vérifier que le devoir de mathématiques a été fait, c'est bien cela?
Pas toujours, parce que nous avons des spécialistes de telle ou telle matière. Et quand on parle des tout jeunes enfants, je prends l'exemple des petits qui sont au CI ou qui sont en grande classe de maternelle, en maternelle tout simplement. Si le parent ne tient pas la main de son enfant, si le parent ne prend pas au creux de ses bras cet enfant pour lui faire réciter la table de multiplication, l'enfant ne trouvera pas d'intérêt à étudier, ce sera trop sec pour lui. Il a besoin de lier ce qu'il apprend avec l'affection qu'il a pour le maître, d'une part, l'affection qu'il a pour le papa ou maman, d'autre part.
Ah oui, vous liez l'affectif et l'apprentissage, d'accord.
Ah, mais c'est très important, très important.
Et alors, restez en ligne avec nous, Annie Colissan. Agnès Dutail, vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Moi, je trouve ça très doux ce que j'entends, c'est très tendre. Je vous remercie vraiment de ce que vous dites, parce que je trouve qu'en fait, c'est simple et c'est tellement doux, tellement juste. J'ai rien à rajouter à ça.
Je voudrais vous lire le message de David à Yaoundé au Cameroun, Annie Colissan et Sané. Le problème chez nous, nous dit David, c'est que dans les zones rurales, les parents n'ont pas fait beaucoup d'études. Ils ne sont pas aptes à aider leurs enfants. Du coup, ils font appel à des tuteurs qui sont souvent des enseignants de l'école des enfants. Et puis, il y a aussi le message de Marlon qui est à Lomé, au Togo. Ma mère avait l'habitude de me dire qu'il fallait que je sois le premier de la classe. Du coup, j'aimais beaucoup étudier et apprendre la langue de Molière. Ma mère me disait tout le temps qu'elle était fière de moi et faire mes devoirs à ses côtés était un plaisir. Et est-ce que le parent qui n'est pas allé forcément longtemps à l'école peut apporter quelque chose à ses enfants dans l'aide aux devoirs?
Mon Dieu, ce sont les parents analphabètes qui sont les plus forts dans ce domaine. Ils sentent qu'ils ont raté quelque chose dans leur vie et ils propulsent leurs enfants dans les études. Ils voudraient qu'ils réussissent pour eux-mêmes et à leur place aussi.
Vous le constatez au quotidien, vous, en tant que proviseur de lycée, parce que j'imagine que vous rencontrez les parents et que tous ne sont pas allés à l'école.
Mais bien sûr, et ce sont les analphabètes qui sont les plus assidus, qui viennent voir les surveillants, etc. Mais pour revenir à cet instant de travail à la maison, le parent analphabète, j'aime bien donner l'exemple de ma mère, qui n'a pas été à l'école, et qui se mettait au bout de la table avec sa kalba, elle criait le riz, et nous étions tous autour d'elle. À un moment, elle vous disait, tiens, viens réciter, et puis il fallait réciter.
C'est une belle image.
À quoi elle joue, celle-là? Mais on n'a pas fait attention au deuxième passage. Deuxième passage pendant lequel il fallait faire aucune différence avec le premier passage. Sinon, il fallait se remettre à la table de travail. Alors, pour l'écrit, elle se faisait aider de nos frères aînés et tout ça, mais elle était présente. Elle voulait qu'on réussisse dans son langage tous les jours. Elle nous galvanisait, surtout nous, les filles.
Ce qui veut dire que votre mère, au bout de la table, avec son riz à trier, d'abord, elle apportait ses propres devoirs, et puis surtout, elle veillait au grain, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire, en effet. On ne pouvait pas lui échapper. Elle était plus terrible que papa, qui, lui, était vétérinaire. Il avait fait des études, qui n'avait jamais le temps. C'est bizarre, d'ailleurs, qu'on ne trouve jamais le temps pour ses enfants, sous prétexte qu'on est pris. C'est très bizarre.
Dites, il y a un mot vraiment que vous avez dit qui est vraiment, je trouve que c'est fondamental, c'est la présence. Et il y a un autre mot qui est là, en fait, qui est présent dans tout ce que vous dites, c'est la confiance. Je me dis la présence et la confiance. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui est le plus important dans le lien avec les enfants.
Merci beaucoup, Annie Colissade. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. On va vous laisser à vos activités et à vos journées très chargées en tant que proviseur d'un grand lycée. À Dakar. Merci. Très bonne journée à Dakar.
Et je continuerai à vous écouter.
Merci beaucoup. 33 1 84 22 71 71, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez encore composer pour poser vos problèmes concrets avec vos enfants pour les aider à faire leurs devoirs. Nous sommes en ligne avec René qui est à Paris. Bonjour.
Bonjour. Alors moi je suis ex-professeur aussi, mais je veux d'abord témoigner sur un ami qui est professeur agrégé d'histoire, aujourd'hui à la retraite, et dont la mère était analphabète. Et elle lui faisait réciter ses leçons. Et lui, enfant, il s'est aperçu que sa mère ne savait pas lire quand il avait seulement 11 ans. Parce qu'elle semblait suivre, elle semblait suivre très bien la leçon. Quant à moi, en tant qu'ancienne professeure de lycée à la Martinique, je donnais un conseil aux parents. J'avais souvent des parents qui étaient faibles sur le plan intellectuel. Et je leur disais, demandez à vos enfants, quand ils apprennent une leçon, après de vous raconter la leçon, non pas la réciter, mais la raconter comme une histoire. Vous voyez, ça peut être ça peut pas être valable pour toutes les matières, mais il y a beaucoup de matières où l'enfant peut dire bon ben papa, maman, voilà, telle chose fonctionne, le cœur c'est ça, ça fonctionne de telle manière ou etc. Voilà, et la maman ou le papa peut dire mais attends, tu viens de me dire ça, mais j'ai pas très bien compris, tu peux m'expliquer? Et l'enfant en fait se fait un peu professeur de son parent. Le parent apprend quelque chose, tout comme ça, et l'enfant lui-même est valorisé parce que, il apprend quelque chose à ses parents. Voilà. Et s'il n'est pas capable de répondre, à ce moment-là, le papa ou la maman peut lui dire, bon, ben, tu vas demander au prof et après tu viendras me raconter.
Merveilleuse façon, effectivement, de renverser les savoirs.
Ah oui, je pense que d'inverser les rôles, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Ça permet à l'enfant donc, de se mettre en situation de professeur. Mais pour revenir au début de votre témoignage, et merci, en fait, au niveau des parents, il s'agit de mettre en place une présence de qualité et d'être dans une complicité avec l'enfant. Je crois que le moment des devoirs, c'est aussi le moment d'être tendre.
Y compris si on n'est pas un professionnel de l'enseignement, tout parent se rend bien compte, en fait, si on est dans une présence de qualité ou pas. On le sent bien, d'ailleurs, dans les témoignages.
Il s'agit de mettre en place de la tendresse.
Alors, Gaëlle nous dit, merci beaucoup, René, de nous avoir appelé en direct chez 7 milliards de voisins. Gaëlle, à Libreville, envoie le message suivant. Avec les enfants, il faut beaucoup de patience. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps à leur consacrer, ce n'est pas la peine de les aider. Il vaut mieux trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Oui ou non?
Oui, oui, c'est une vraie question, ça. C'est une bonne idée. De toute façon, ce qui est pas bon, c'est le stress. C'est de crier et de rentrer dans des situations de crise. Donc, il vaut mieux sous-traiter avec un grand-père, une grand-mère, un tonton, pourquoi pas un étudiant, pourquoi pas un grand frère aussi qui peut peut-être prendre ce rôle pour un petit moment. Voilà, bien sûr, sous-traiter, ça peut être une très bonne initiative. Il y a aussi des ateliers d'aide aux devoirs qui peuvent être intéressants.
Je vous lis le message aussi de Mamadi à Conakry, étudiant. Alors lui, il est formidable, mais alors il a quand même quelques petits soucis. J'aide des enfants de mon quartier à étudier après l'école. Ils sont environ une dizaine et j'ai du mal à les gérer. En tout cas, bravo Mamadi déjà. Ouais. C'est difficile parce qu'ils n'avancent pas tous au même rythme, n'ont pas tous le même âge. Et puis, il faut savoir que comme ils n'habitent pas loin de chez moi, ils se permettent de venir à n'importe quelle heure frapper à ma porte pour me demander de l'aide. Bon, victime de son succès là, Mamadi. Quel conseil donner à Mamadi?
Moi, j'entends de la joie de vivre là dans ce témoignage. Donc déjà, bravo pour cette joie de vivre. Les conseils à lui donner, c'est déjà de ne pas se culpabiliser, de continuer à faire ce qu'il fait avec apparemment la joie de vivre qui en ressort, et puis d'essayer peut-être de faire en sorte de mettre en place de l'entraide des uns par rapport aux autres, puisque dans ces enfants, il y a des enfants qui peuvent peut-être aider. Donc mettre en place de l'entraide, ça peut être bien.
Et puis fermer la boutique à un moment donné,
Se protéger un petit peu et donner des horaires.
Oui. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous sommes en ligne avec Sein Koun qui nous appelle de Paris. Bonjour, est-ce que je prononce bien votre prénom?
Oui, vous le prononcez bien. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous.
Soyez le bienvenu.
Bonjour. Bonjour. Je vous remercie. J'appelais en fait pour évoquer deux points qui me paraissent être des écueils dans lesquels certains parents dont je fais partie peuvent tomber. Le premier point est le suivant. Lorsque l'on veut que son enfant, nous en tant que parents, on veut tous que nos enfants réussissent à l'école, qu'ils se situent dans les premiers, etc. Et on peut avoir de ce fait une attitude qui est très peu tolérante, on peut s'énerver facilement, on peut, comme le disait la personne à vos côtés, devenir stressant par rapport à son enfant. Or, l'une des choses les plus importantes, à mon sens, c'est que l'enfant, il ait du plaisir à faire ses devoirs. Il faut vraiment qu'on puisse le mettre dans une ambiance qui lui permette de prendre confiance en lui, parce que la confiance est fondamentale pour la réussite, non seulement scolaire, mais j'ai envie de dire dans la vie en général. Quoi. Un enfant qui a confiance en lui, c'est ses parents qui vont énormément contribuer à lui donner cette confiance, cet enfant, il est dans de bonnes dispositions pour réussir. Le second point, c'est des projections que l'on peut faire en tant que parent. On a vécu, de par notre parcours personnel, des échecs et des réussites aussi. Et parfois, les échecs qui sont des fois dans le domaine scolaire peuvent nous amener à nous comporter d'une manière excessive, parce qu'on sait que l'enfant, à un moment ou à un autre, il est sur un chemin qui nous paraît être le chemin qu'on a pu emprunter lorsqu'on a échoué. Et donc, de ce fait, on va être justement dans une attitude qui sera au final...
On voit le problème arriver, évidemment, avant l'enfant.
Exactement. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc, les maîtres mots, c'est la patience, l'écoute, bien évidemment, et puis donner de son temps, et puis donner de la confiance à l'enfant. C'est vraiment, à mon sens, la confiance, c'est vraiment le maître mot, quoi, avec le travail régulier, bien évidemment. Mais la confiance, c'est capital.
Bon, Sein Koun, vous avez beaucoup de sagesse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je travaille dans le domaine bancaire. Mais
ah oui, vous n'êtes pas du tout enseignant, hein?
Non, mais bon, je pense que j'ai eu une mère extrêmement pédagogue, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Et
d'accord.
Elle m'a transmis ça en quelque sorte.
Ah oui, petit hommage à maman quand même en direct, vous avez bien raison.
J'espère
qu'elle vous écoute.
Elle
est dans quel pays votre maman? Elle est en France aussi?
Elle est actuellement en Guinée, Guinée-Conakry.
D'accord, bon, j'espère qu'elle nous écoute en FM à Conakry.
Oui, j'avais envie de vous poser une question en même temps, Seiko, si vous voulez bien.
Oui.
Parce que vous parliez des erreurs en disant, en fait, ce qui est difficile, c'est quand on voit nos enfants, en fait, s'engouffrer dans des erreurs et là, effectivement, ça peut nous faire peur. Et en même temps, je me dis, est-ce qu'en fait, les erreurs que vous avez faites dans votre vie, Seiko, elles ont servi à rien ou est-ce qu'elles vous ont appris des choses?
Je suis tenté de vous répondre que, en toute chose, malheur est bon.
Et oui, et je trouve que c'est vraiment important. En fait, en psychologie positive, c'est vraiment ce qu'on essaye de regarder, c'est comment on apprend de nos erreurs.
Oui, mais alors attendez, parlons clairement pour les auditeurs. Oui. Et concrètement, un enfant qui se met à réviser un contrôle de maths deux jours avant, alors que tout le monde sait qu'il faut s'y prendre une semaine avant pour repasser plusieurs fois sur une leçon de maths pour être bien prêt pour le contrôle, on va apprendre quoi de cette erreur-là, de s'y être mis trop tard? Parce que c'est quand même très répandu chez les élèves.
Alors en fait, ça me fait venir en fait au au compliment et à la façon en fait dont on va retourner la chose à l'enfant. C'est-à-dire finalement, ici est mi-tard, ok. Et alors, quels sont les est-ce que les résultats sont mauvais pour autant, ok. Si les résultats sont mauvais, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est de regarder exactement comme l'histoire du stylo vert tout à l'heure. Quand il y arrive, comment est-ce qu'il fait? C'est-à-dire finalement de lui dire, dis donc, là j'ai vu que tu t'étais, alors puisque vous donnez cet exemple, Emmanuel par exemple, ben dis donc pour la géographie, tu t'as commencé à réviser 15 jours avant et j'ai l'impression que ça a payé, hein, parce que dis donc, t'as une super bonne note. C'est-à-dire en fait de voir comment il s'y est pris quand il a réussi, ok. Mais même dans les erreurs, c'est finalement de regarder qu'est-ce que ça t'apprend cette erreur, qu'est-ce que ça t'apprend et de le faire verbaliser.
Merci beaucoup Senku de nous avoir appelé. Très bonne journée. Nous accueillons notre auditrice. Vous êtes nombreux à souhaiter intervenir et poser des questions. Sophie à Paris également.
Oui,
bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue
bonjour
chez 7 milliards de voisins.
Merci beaucoup. Merci aux techniciens également. Merci de prendre mon témoignage.
Ça c'est sympa de nommer aussi l'équipe. Merci. Oui, on vous écoute. Bah, vous êtes en direct.
C'est normal. Alors moi je voulais apporter un témoignage un peu différent, c'est-à-dire que moi je suis aveugle. Donc je me dis que c'est important aussi pour des gens handicapés de, qu'on comprenne un petit peu ce que ça peut impliquer pour les parents aussi et pour les devoirs. Et c'est vrai que c'est très compliqué, notamment quand on est aveugle.
Vos enfants ont quel âge, Sophie ?
Ah non, moi j'ai pas d'enfant.
Ah d'accord.
C'est mon exemple personnel en tant qu'enfant de parents qui ne sont pas aveugles, mais moi je suis aveugle. Mmh. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Et donc c'est un peu compliqué, par exemple, si vous faites des divisions ou des choses comme ça qui sont très avec beaucoup de positions, apprendre à poser des opérations, apprendre à faire de la géométrie aussi, quand vous vous retrouvez avec une énorme figure géométrique extrêmement difficile à décomposer.
Mais comment vous avez appris justement, Sophie, vous n'avez pas appris tout en braille?
Si, si, bien sûr.
Mais malgré tout, c'était compliqué.
Oui, parce que les parents ne savent pas forcément tout à fait comment bien expliquer. Et en plus, quand ils ne sont pas forcément très patients par moment, c'est normal, hein, bien sûr. Alors quand c'est de la conjugaison ou des choses comme ça, j'y arrivais bien d'ailleurs.
Bien sûr.
Donc ça va. Mais quand c'est des...
Vous posez une vraie question, hein, Sophie. Je vous en prie, poursuivez. Mais, parce que votre question est très importante et très intéressante pour des parents. Alors là, pour qui se rajoute une difficulté? C'est-à-dire tenir compte du handicap de l'enfant.
Alors, par exemple, il y a un truc que mon père ne supportait pas, que je ne comprenne pas, c'est les conversions. Il me disait, mais comment est-ce que tu peux ne pas comprendre ça? C'est vraiment pas compliqué. Et à chaque fois, je savais pas s'il fallait multiplier ou diviser. Enfin, c'était une horreur. Et à chaque fois, on s'engueulait tout le temps avec ça.
Vous avez souffert pendant les devoirs avec vos parents, Sophie?
Non, mais je veux dire, ça dépendait des fois. C'est ce que je vous disais. Par exemple, quand c'était du français, c'était un bonheur parce que, bon, mes parents sont historiens. Donc, ça va. Le français, l'histoire, ça va. En revanche, dès que c'était des maths, c'était vraiment une horreur, quoi.
Bon, voilà. Bravo en tout cas pour de nous avoir appelé. Vous vous en êtes bien sorti apparemment, hein, quand on entend la...
Oui, bon, pour le moment, oui, ça va. J'ai étudié, j'ai fait du droit et des relations internationales.
Wow.
Bravo, Sophie. Franchement, on est admiratif. Alors, qui veut réagir là, dans le studio, Charles Capret?
Oui, bonjour Sophie. Merci de votre témoignage. Alors, dans les difficultés que vous décrivez, il y a des difficultés que vivent aussi d'autres enfants qui, par rapport à certaines matières. Alors, j'ai pas, par rapport à la question que vous soulevez, j'ai pas d'expérience en la matière, mais je crois que si j'étais confronté à une classe de non-voyants, je crois qu'une des façons de faire, peut-être pour les parents, c'est eux-mêmes de se mettre en situation d'empathie avec leur enfant, c'est-à-dire de se bander les yeux, d'essayer de se mettre dans les conditions du handicap pour essayer de mieux comprendre. Et je pense que du coup, il y a d'autres stratégies qui pourraient naître, et en tout cas plus d'empathie et plus de compréhension.
J'aimerais bien, peut-être on arrive au terme de cette émission, Charles Caplet et Agnès Dutheil, que l'on puisse redonner quelques conseils fondamentaux. Alors on a bien sûr parlé de la confiance, du rôle des compliments aussi, de passer un moment pour se reconnecter avec son enfant avant de se mettre à faire les devoirs. Mais quand on est au cœur de l'action, que ça bloque, que l'enfant ne comprend pas le problème de mathématiques, il ne retient pas la poésie, qu'il fait trop de fautes d'orthographe à sa dictée, comment dépasser dépasser ces difficultés-là, comment trouver des astuces alors que l'on n'est pas soi-même un enseignant professionnel. Est-ce qu'on peut redonner quelques conseils essentiels, Charles Caplet ?
Oui, le premier conseil, c'est de se reconnecter à son enfant avec de la tendresse et arrêter de parler du travail scolaire, arrêter de parler des devoirs. Je propose d'ailleurs une idée qui n'est pas du tout académique, qui est de faire l'école buissonnière avec son enfant et d'aller faire avec son enfant quelque chose qui fait plaisir pour se reconnecter, pour se faire des câlins. Et puis ensuite, on s'y remet doucement. Mais rétablir le contact, je pense que c'est la condition essentielle de la réussite de l'enfant, c'est la tendresse dont on fait preuve avec eux.
Et ensuite, les blocages pendant les devoirs ?
Et ensuite, les blocages pendant les devoirs, je pense qu'il faut effectivement aller chercher du côté des intelligences multiples. Il faut aller... En fait, ce moment des devoirs est un petit peu un nœud qu'il faut défaire. Donc, il faut essayer de changer des choses à la périphérie quand on n'arrive pas à changer le cœur du problème. C'est-à-dire changer de lieu, planter une tente, enfin mettre un drap sur la table et aller se cacher dessous, faire les devoirs dans le noir, enfin changer quelque chose qui est de l'ordre du ludique.
Faire les devoirs dans le noir, vous dites, ça permet des choses essentielles qu'on a tendance à oublier d'ailleurs. Alors,
écrire. Je propose d'ailleurs d'organiser une panne d'électricité parce que on va allumer des bougies.
Les auditeurs connaissent bien.
Voilà. On va allumer des bougies, on va avoir une lampe torche et du coup, l'apprentissage se fait dans d'autres conditions parce qu'on change l'ambiance et on change pas quelque chose qui était difficile.
Ça peut favoriser la concentration.
Oui, parce qu'on est un petit peu comme quelqu'un qui va aller dérober une connaissance, donc ça peut être tout à fait intéressant.
Agnès Dutheil, il nous reste quelques secondes.
Oui, alors d'éviter de dire aux enfants c'est pas difficile. Quand on dit à un enfant c'est pas difficile, en fait il est perdant à tous les coups.
Et on le fait tous.
Sauf, si en fin de compte il réussit, de toute façon il a aucune gloire à avoir réussi parce que c'était pas difficile. Et puis s'il réussit pas, c'est vraiment le dernier des imbéciles parce qu'il a pas réussi.
Donc on bannit cette
alors,
phrase.
Voilà. Vous avez appris plein de choses aujourd'hui, mais vous pouvez en retirer une chose.
Et on a le droit de dire c'est simple, éventuellement.
Et de dire non, et de dire ça peut être vraiment très compliqué. Si on dit à un enfant ça peut être vraiment très compliqué, ça lui laisse la possibilité de réussir.
Merci infiniment à tous les deux pour vos conseils. Agnès Dutheil, La psychologie positive, et Charles Caplet, Chouette, c'est l'heure des devoirs. Tout est édité aux éditions Erol. Et surtout, vous vous connectez sur Facebook pour gagner des ouvrages. Lundi, 7 milliards de voisins, nous serons dans la marmite des cuisines mal connues avec nos invités pour découvrir des recettes et des cultures culinaires discrètes, voire dans l'ombre d'un pays voisin, mais pas moins savoureuse. On parlera de l'Algérie, du Cambodge et de Brésil.
L'épreuve des faits.